Zacharie, où on trouve plusieurs prophéties qui nous parlent de la gloire de celui qui allait venir, de son royaume éternel, et puis la dernière prophétie concernant le Messie, Jésus. C'est une prophétie qui annonce justement ses souffrances. Et on peut lire au verset 5 du chapitre 13 de Zacharie, et il dira, « Je ne suis pas prophète. » Celui qui a cessé en quelque sorte d'être le Messie. Le Messie est venu, il sera retranché, il n'aura rien. Là, il est sur la croix, crucifié. Mais il arrête d'être le prophète, dans le sens qu'il n'a plus rien à dire de la part de Dieu. Et là, quand il va parler, prier son Dieu, alors le ciel est fermé. Il n'y a pas de réponse à sa prière. Et je suis un homme qui laboure la terre, vraiment un homme, l'homme acquis comme esclave dès ma jeunesse, celui qui s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, a pris l'obéissance, un chemin d'obéissance jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Et on dira, quelles sont ces blessures à tes mains? Et il dira, celles dont j'étais blessé dans la maison de mes amis, peut-être dans les 3 premières heures que nous avons considérées. Les blessures dans la maison de mes amis. Mais cela va plus loin. Épée, réveille-toi contre mon berger, l'homme, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Alors l'épée s'est réveillée et Dieu, dans sa justice, a pu justement abattre, planter son épée sur son bien-aimé pendant ces heures de ténèbres. Il y avait un bras qui a retenu le bras d'Abraham dans Genèse 22. Ici, il n'y a pas de bras pour arrêter cette épée. Et notre Seigneur a été percé par cette épée, par celui, l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et le troupeau sera dispersé, etc. On voit comment le troupeau qui est le peuple d'Israël aura été dispersé après ce moment terrible. Mais je tournais ma main vers les petits, ceux qui n'avaient pas justement de place, on peut dire, dans cette bénédiction première, mais qui ont maintenant une bénédiction pour tous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, chacun de nous peut dire, vraiment, c'est pour moi.
La lecture de quelques versets dans le psaume 88, qui correspondent fort bien aussi à ces 3 heures ténébreuses et à ce cri douloureux qui sort de la bouche de notre Sauveur. Verset 6 du psaume 88. Tu m'as mis dans une fosse profonde, dans des lieux ténébreux, dans des abîmes. Ta fureur s'est apesantie sur moi et tu m'as accablé de toutes tes vagues. Verset 16, les ardeurs de ta colère ont passé sur moi, tes frayeurs m'ont anéanti. Verset 13 déjà, mais toi Éternel, je crie à toi, mais moi Éternel, je crie à toi. Dès le matin, ma prière te prévient. Éternel, pourquoi as-tu rejeté mon âme et me caches-tu ta face? Ce psaume qui nous parle aussi, ces souffrances du Seigneur et toutes les ténèbres dans ce psaume, il peut bien se passer et se placer prophétiquement dans ces 3 heures de la 6e à la 9e heure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas eu de réponse. Que oui, il y en a une. Mais c'est le Seigneur lui-même qui la donne par l'esprit prophétique. Ça a été déjà cité ce matin, d'ailleurs, psaume 22, où, sous la plume de David, les pensées, les sentiments profonds du Seigneur sont mis en évidence. Le premier verset, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant loin de mon salut, des paroles de mon rugissement? Et la réponse, verset 3, et toi, tu es saint. Et toi, tu es saint. Voilà la raison de cet abandon. Le Dieu saint, Jésus fait péché. Jésus devenu malédiction. Jésus chargé de notre culpabilité. Mais toi, tu es saint. nécessairement, il devait y avoir l'abandon. Mais nous ne pouvons être qu'à distance et ne cherchons pas à analyser ce qui s'est passé durant ces 3 heures. Non seulement il y avait des ténèbres, mais il y a le silence absolu. Rien ne nous est dit qui a été exprimé pendant ces 3 heures. Quand le Seigneur s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est vers la 9e heure. Il y avait encore les ténèbres, certainement, mais elles allaient prendre fin. Vers la 9e heure, Jésus s'écria. Et cette parole, on a vu ce matin, une parole centrale, 4e parmi ces 7, elle est répétée 4 fois. Dans 2 évangiles, et chaque fois, dans la langue originale et dans sa traduction. Donc on a 4 fois cette expression qui nous montre l'importance, qui nous montre en somme la chose absolument centrale de cette œuvre de la croix. Christ fait péché pour nous, portant le jugement que nous méritions, abandonné de Dieu, et comme a dit le poète, un jour d'ardente peine ou des ardeurs de la gêne, ton âme endure l'horreur. C'est le jugement, c'est la mort dans son sens absolu, séparation de Dieu, la mort qui serait la part de tous, mort éternelle, séparation de Dieu, ténèbres totales. Le Seigneur l'a connu dans ces 3 heures.
Contrairement à ce que les Juifs pensaient, le Seigneur n'en appelait pas à Élie, mais au contraire à son Dieu. La vraie pensée Eloi Eloi ou Eli Eli, c'est elle, le Dieu fort en sainteté, aussi puissant, aussi absolu et éternel que possible. C'est à celui-là que le Seigneur en appelle. Habituellement dans l'Écriture, lorsque Dieu en appelle à son Dieu, il est vu comme homme. Lorsqu'il en appelle à son Père, il est vu comme fils. Christ est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, c'est comme homme, mais en même temps, ne séparons jamais l'humanité de la divinité. La parole les distingue sans les séparer. Il est bien évident qu'aucun homme n'aurait pu supporter une scène pareille. Il fallait la divinité de Christ pour le faire traverser ces heures de l'abandon, mais nous ne pouvons pas y entrer. Non seulement c'est la parole qui est répétée 4 fois dans les 2 évangiles, mais c'est l'accomplissement exact d'une prophétie qui date de plusieurs siècles. C'est la seule parole qui a été prophétiquement annoncée de cette manière-là. Ça n'est plus le Père à qui le Seigneur s'adresse, mais à son Dieu. Il lui demande 3 choses. D'être délivré de l'épée, et c'est bien le passage de Zacharie 13, de la patte du chien, c'est la méchanceté et la violence de l'homme, de la gueule du lion, la puissance dévorante de Satan. Et sur l'épée, épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme. Christ est bien vu comme homme. Et qui est-il? L'égal du Père. De sorte que lorsque Christ, buvant la coupe amère sur la croix, est vu comme homme, Dieu le reconnaît comme son égal, c'est-à-dire Dieu lui-même béni sur toute chose éternellement. Et à sa place maintenant, comme conséquence de l'œuvre de la croix, lorsque Christ se présente comme Dieu, il se choisit des compagnons sur la terre d'entre les hommes. Et les compagnons du Christ, c'est pour ainsi dire l'écho de Zacharie 14, c'est dans le psaume 45 sur la terre, ou dans Hébreux 3 pour le ciel. C'est une chose merveilleuse de penser que comme homme sur la croix, Christ est l'égal du Père, Dieu béni sur toute chose, et comme Dieu, Christ a l'autorité de son propre choix, se choisit des compagnons pour être avec lui sur la terre pendant 1000 ans et pendant le ciel pour l'éternité. Voilà les conséquences, quelques-unes de ces conséquences merveilleuses, ces heures d'abandon. Il y a plusieurs autres expressions remarquables. Il y a le puits, on a fait allusion tout à l'heure. Il y a le bourbier. Le puits, il était vide d'eau pour Joseph. Il était rempli de boue pour Jérémie en la sortie. Il était sans aucun fond, insondable pour Christ. Les eaux, le jugement, le bourbier, la boue, l'horreur, la plaie du péché, le Seigneur y est entré. Alors rappelons bien, ceci m'a été enseigné depuis ma jeunesse, que le Seigneur, il a dit dans l'Écriture que le Seigneur a été fait péché pour nous, mais que c'est les péchés des élus, pas des autres, n'ont pas été attachés à sa personne. Il était absolument et entièrement saint lorsque, en même temps que sacrifice pour le péché, il est l'Holocauste. Il était absolument en bonne odeur, il était l'Holocauste en même temps à travers ses heures. Mais ici, c'est le côté de l'expiation. C'est clair, le psaume 22, c'est le psaume du sacrifice pour le péché, c'est le psaume de l'expiation.
Juste avant ces trois heures de ténèbres, dans Matthieu 27, les hommes peuvent dire, verset 43, « Il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre maintenant s'il tient à lui, car il a dit, je suis fils de Dieu. Qu'il le délivre maintenant s'il tient à lui, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Deux versets plus loin, « Il y eut des ténèbres sur tout le pays. » C'est l'abandon. Au défi qu'ont lancé ces hommes, la réponse de Dieu, ce sont les trois heures de ténèbres. Quand un peu plus tôt, ils ont dit « Descends de la croix », la réponse du Seigneur, ça a été de rester sur la croix. Et puis, tout à l'heure, on a vu aussi sa réponse au brigand sur la croix. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Avez-vous remarqué que tout aussitôt après, le Seigneur a dit ça au brigand dans Luc, un peu juste avant de franchir le pas vers les trois heures de ténèbres, pour accomplir l'œuvre qui allait délivrer le brigand, comme pour nous délivrer. Alors d'un côté, la réponse au défi que les hommes ont posé à Dieu, ça a été l'abandon du Fils. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Et le Seigneur s'est donné lui-même jusqu'au bout.
On trouve dans l'Ancien Testament deux témoignages. D'un côté, celui de David, dans le psaume 37, il n'avait jamais vu le juste abandonné ni sa semence cherchant du pain. Et Malachie, c'est la contrepartie de ce que Jean-Luc vient de dire. Dans Malachie, un homme épargne son fils qu'il sert, c'est naturel. Eh bien, Christ a été cette merveilleuse, extraordinaire exception. Il avait parfaitement servi son Dieu, il s'est constitué comme l'esclave volontaire. J'aime mon maître, ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Il aurait pu sortir libre. Il avait droit à la vie au jardin de Gethsémané. Où serions-nous maintenant? Alors le juste abandonné, il l'a eu.
Et où nous avons lu, épée, réveille-toi. Réveille-toi. Donc elle avait été mise, on peut dire, sous couveuse un moment. Elle avait fonctionné au jardin d'Éden pour empêcher l'homme d'atteindre l'arbre de vie. C'est au verset 24 de Genèse 3, après la chute. On en voit une mention à la fin d'un chronique où l'ange destructeur reçoit cet ordre de la part de Dieu, remet ton épée dans le fourreau. Le sacrifice avait été offert par David dans l'ère d'Arona, et dès le moment de ce sacrifice, l'épée est remise dans le fourreau. Depuis ce moment-là, on peut dire elle est restée comme endormie. Elle s'est réveillée au calvaire. Épée, réveille-toi contre mon compagnon. Et c'est là, dans ces heures ténébreuses, que l'épée du jugement a frappé le juste par excellence, lui le juste, pour nous les injustes.
On a juste la citation, peut-être pour ceux qui l'aimeraient. C'est 1 Chronique 21, et c'est le verset 27.
Il y a l'insondable ici aussi. Et cela nous rappelle bien sûr ce que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe. Il plut à l'Éternel de le meurtrir. C'est un profond mystère dont nous connaissons les effets et la cause. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose qui est clair, ceci pour notre foi, c'est ce que nous trouvons dans Hébreux 2, au verset 10. « Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses, donc pour Dieu, et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. » Les deux notes F et G que nous avons donc dans la traduction qui est entre nos mains sont essentielles. Le terme de consommer, c'est rendre parfait. Le chef de leur salut par des souffrances, c'est la la passion de Christ à la croix. Ce que nous avons là, dans ce que le Seigneur Jésus a prononcé, au bout de ces 3 heures, où la nuit était là, la nuit de nos péchés. Ce que le Seigneur Jésus a prononcé, nous ne pouvons pas y entrer dedans. Cet abandon, c'est un mystère profond. Dans le psaume 22, nous avons 3 fois cette expression « ne te tiens pas loin ». Et il y a la réponse. « Bien sûr, je t'ai répondu d'entre les cornes des buffles, avec toutes les conséquences donc, que nous trouvons à partir de ce verset dans le psaume 22. Mais ici, ce qui est devant nous, donc dans ces versets, c'est que ce que Christ a dit là, ce qu'il a enduré, manifeste son absolu, sa totale perfection. Afin de rendre parfait, comme nous l'avons lu donc dans l'épître aux Hébreux, le chef de leur salut. Non pas qu'il ne l'était pas en lui-même, mais c'est devenu quelque chose que nous pouvons saisir maintenant, que nous pouvons comprendre. Le Seigneur était parfait de toute éternité. Mais ce qui nous est dit là, bien que s'adressant à Dieu, est pour nous et nous donne l'évidence. Et notre foi a besoin de se reposer sur cela, de la perfection de Christ dans sa mort.
Si nous ne pouvons pas pénétrer dans ces heures, nous en connaissons le sens et la valeur. L'heure plus mémorable que l'heure de la création est devant nous. Ce que Dieu a été contre Christ, il l'a été dans sa sainteté, sa justice, sa vérité, sa majesté, comme il ne sera jamais contre personne. Le péché a été mesuré et traité dans la personne de Christ, comme il ne le sera pas dans la seconde mort. Dans la seconde mort, dans l'étang de feu, la coupe ne sera jamais vidée. Dans les 3 heures de l'expiation, Christ l'a épuisée pour nous, pour les saints. C'est un fait qui confond la pensée de l'homme, de voir, de sonder quelque peu par la parole ce qui s'est passé dans ces heures. Dieu donne là la vraie, la seule mesure de son horreur du péché pour lui, pour ses yeux, celui qui a les yeux trop purs pour voir le mal. Quand le péché passe sous son regard, et même s'il est porté par son propre fils, il l'abandonne, il le frappe. Les ardeurs de sa colère, de l'indignation de Dieu contre le péché atteignent le Seigneur Jésus, notre divin substitut. Il n'y a rien de comparable à ces heures comme mesure de ce que Dieu est. Dans un sens, nous avons la sainteté de Dieu, la justice à son plus haut point. Même en Éden, quand Dieu avait donné dans quelques mesures ce qu'il en était de sa sainteté en disant à l'homme, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce n'était pas encore la mesure des 3 heures. Là, Dieu épuisait sur Christ tout ce qui était contre nous, tout ce que nous avions fait, et le péché était traité comme il devait l'être. Il a été mesuré et traité dans la personne de Christ, comme il ne pourra jamais l'être une nouvelle fois. C'est une œuvre qui ne se renouvelle pas. Nous apprenons ce qui se passe dans ces heures par le cri du Seigneur. Il donne à connaître aux hommes qui entendent ce cri ce qui se passait là. Si Dieu n'avait pas abandonné Christ, son propre Fils, l'expiation n'aurait pas pu être accomplie. Il fallait les 3 heures de l'abandon quand le ciel est fermé. Il n'y a pas de place dans l'amour, il n'y a pas de place pour l'amour dans la colère de Dieu. Je connaissais cet amour d'une manière infinie et parfaite. Christ a été privé de cet amour dans ses heures insondables, lui qui connaissait cet amour dans sa plénitude. Il a réalisé dans son âme ce que c'était quand Dieu frappe le péché.
Est-ce qu'on pourrait préciser la relation avec ce qui est devant nous et Genèse 22, ils allaient les deux ensemble, et Jean 16, verset 32, leur vient, et elle est venue, que vous serez dispersés chacun chez soi et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Bien, l'expression, nous l'avons lue, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est question de le Seigneur, l'homme, Dieu, son Père, avant, après, ici c'est mon Dieu.
Dans ces heures, ce n'étaient pas les heures de la jouissance de la communion avec son Père, exprimée par cette expression « Père ». Qu'il a toujours employé dans chaque fois qu'il s'est adressé à son Père. Ici, il n'y a pas de relation possible dans la communion avec son Père. Dans les 3 heures de l'abandon, la communion a été interrompue. Il doit s'adresser à Dieu comme le Dieu juste, le Dieu saint, le Dieu juge de tous. Il est traité comme étant le péché lui-même, comme le principe du péché, et portant nos iniquités en son corps sur le bois. Dieu donne là la mesure de l'horreur qu'il a du péché. Il ne peut pas avoir de relation, d'expression de communion et de relation dans ces heures. Nos frères qui nous ont enseigné l'ont confirmé plusieurs reprises. Et si cet abandon n'avait pas été là, nos péchés n'auraient pas pu être ôtés. Il fallait cet abandon. C'est cette horreur de ce que Christ, qui connaissait si parfaitement la communion de son Père, est exprimée dans cette scène si touchante, ce combat solitaire, ce drame infini à Gethsémané. En anticipant le moment où il allait traverser ses heures, sa sueur devint comme des grumeaux de sang à la pensée que ses heures étaient pour lui l'abandon de cette communion de son Père. Il y a des faces cachées dans la croix parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu en lui-même, nous ne pouvons pas sonder cela. Nous ne pouvons pas sonder. Il y a des faces cachées dans la croix. Mais l'aspect du jugement de Dieu contre le péché nous éclaire quand nous entendons ce rugissement du lion de la tribu de Judas quand il dit « Mon Dieu, pourquoi ?» Parce qu'il était juste. Mais il reconnaît toute la sainteté de Dieu quand il dit « Tu me frappes, tu es saint. »
Nous devons donc respecter les termes mêmes qu'utilise l'Écriture. Nous ne pouvons pas dire du Seigneur qu'il a été abandonné par le Père. Mais ça ne nous permet pas non plus de dire que la relation d'affection pendant ces 3 heures entre le Fils et le Père était encore intacte. Nous ne pouvons pas dépasser ce que l'Écriture nous dit. C'était un abandon total. mais ce n'est pas sous l'aspect, sous le caractère ou la qualité de père que le fils a été abandonné. C'est mon Dieu et non pas mon père. Respectons simplement les termes de l'Écriture, mais comme cela a été dit, nous ne pouvons pas entrer. Une pensée encore, ceux qui passaient par là, dans le texte de Matthieu 27, répété aussi en Marc, ceux qui passaient par là, ils ont dû s'arrêter pendant les 3 heures de ténèbres. Nous sommes invités, nous aussi, à nous arrêter. Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 1er, verset 12. N'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin, contemplez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur qui m'est survenue à moi que l'Éternel a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. Dans ce passage, il est question prophétiquement d'un résidu futur, de Jérusalem en particulier. Mais l'application que nous faisons couramment n'est certainement pas hors de propos avec ces 3 heures de ténèbres. Et nous tous, nous passons par le chemin de la vie. Les plus jeunes déjà, ils passent par ce chemin. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le Seigneur nous demande de nous arrêter pour contempler? Contempler, c'est-à-dire voir avec une émotion profonde ce que Jésus a fait pour moi, et que chacun ici, les plus jeunes aussi, lorsque au dimanche matin, vous êtes dans un lieu de culte, et que le mémorial est distribué, le voyez-vous passer devant vous avec indifférence? Le contempleriez-vous simplement de loin en disant: eh bien, j'y viendrai un jour, mais pour le moment, ça me laisse un peu indifférent. Non. Contemplez-vous. Ne serait-ce rien pour vous. C'est comme si nous étions transportés pour un petit moment sur le mont Calvaire et voir une autre pareille qui nous permet de nous prosterner dans l'adoration.
Encore ajouter une pensée au regard de ce qu'on a appelé quelquefois près de l'autel. Le sacrifice pour le péché était brûlé hors du camp, loin de Dieu, loin de la face. Quand nous lisons en Lévitique 16, nous avons quelque chose d'important. Lévitique 16, verset 25. Et Aaron fera fumer sur l'autel de l'Holocauste, la graisse du sacrifice pour le péché. Apprenons là qu'il y avait une partie du sacrifice pour le péché qui montait en même temps que l'Holocauste. Comment pouvons-nous aider cela? Eh bien, le dévouement absolu de Christ jusqu'à être fait péché pour nous. En cela, il était agréable à Dieu.
Il a été abandonné afin que nous ne soyons jamais abandonnés. Et si dans ces moments où on ne peut pas pénétrer, on peut quand même voir que quand il a prié, alors sa prière ne passait pas. Lamentation de Jérémie. Quand nous prions, nous, au plus fort de notre détresse, il y a toujours quelqu'un pour entendre notre prière. Et dans ces moments les plus douloureux que nous pouvons, dans lesquels le racheté peut passer, il y a toujours cette puissance de la communion qui le tient. Et il n'a pas eu cela. Alors quelle a été la puissance qui l'a amené à passer ces 3 heures de ténèbres, d'abandon de Dieu? C'est la puissance de l'amour. Et nous l'avons lu en quelque sorte ce matin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. À cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Un amour fort comme la mort, Et c'était sa puissance. J'aime le Père. Et on peut dire que dans ces moments où tous les hommes étaient contre lui, où Dieu tourne sa face de lui, où les anges sont là mais ne peuvent pas l'aider, seul, sous le coup de la colère de Dieu, comme nous l'avons lu dans Ésaïe au chapitre 53. Il est là, portant nos péchés. Et lui qui peut dire, et dans les psaumes 40 et 69, « Mes iniquités m'ont atteint. Tu connais ma folie. Mes fautes ne te sont pas cachées. » Oui, lui, le saint et le juste, a porté cela pour nous. Par amour. Pour que cet amour que Dieu voulait manifester à sa créature puisse enfin pouvoir avoir sa réalisation. Mais voilà la fin des 3 heures de ténèbres. Il est 3 heures de l'après-midi et le Seigneur Jésus va encore parler. Et nous arrivons donc dans la 5e parole que nous trouvons dans l'évangile selon Jean et que nous avons lu au verset 28 du chapitre 19. Et après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient déjà accomplies, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Et il était venu aussi pour accomplir l'Écriture. Et c'est pour cela qu'il dit, j'ai soif. Il y a eu une aigre, il lui a été proposé avant les heures de ténèbres. Ce breuvage qu'on donnait aux condamnés pour soulager leurs souffrances, mais il n'a pas voulu le boire. Mais ici, afin que l'Écriture fût accomplie, il dit, j'ai soif. Celui qui peut dire la puissance de la vie sur cette terre, terre aride pour lui, où n'a rien trouvé pour désaltérer son âme. Le Seigneur Jésus, à la fin de sa course, peut dire, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Et lui pourra être, après, pour ceux qui s'approchent de lui, une source de vie en vous.
Donc, Gédéon, avant de partir pour la conquête et pour essayer de vaincre les ennemis, pour une question à Dieu, pour ainsi dire le mettre à l'épreuve, il y avait une toison, il y avait une aire, et deux fois les choses se passent. La toison, à un moment, est sèche. Il y a de la rosée. La rosée de la bénédiction sur toute la terre. Avant, la toison était humide et rosée, et la terre était sèche. Lorsque Christ est venu sur la terre était sèche, sous la malédiction à cause de l'homme, à cause du crime de Caïn, et Christ était celui-là sur qui le plaisir de l'Éternel reposait. Et sur la croix, il a été dans cette sécheresse profonde pour que la joie de la bénédiction et les eaux de la vie coule. C'est la réalisation du psaume 69. C'est très intéressant de voir comment deux psaumes, 22 et 69, se complètent, avec des différences essentielles. Dans le psaume 22, il n'y a point de source, il n'y a point de réponse à la prière. La terre était fermée, et le ciel était des reins, le ciel des reins, la terre de fer. La croix était entre le ciel et la élevée de la terre sur la croix. Dans le psaume 69, la prière du Seigneur s'adresse à l'Éternel en un temps, ce qui montre que nous ne sommes pas absolument dans les heures de l'expiation. En même temps, il y a ce côté de la soif. Il y a l'appel à Dieu, élève-moi au Dieu. Et Dieu lui a répondu, l'a soustrait à la rude main de l'homme, dit quelqu'un. Ici, ce sont les heures de l'angoisse profonde, la soif des condamnés. Ici, le Seigneur prononce cette parole comme un accomplissement de la parole prophétique. J'ai soif. Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre.
Dans le psaume 42, on a verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Certes, le Seigneur avait soif en tant que crucifié, mais je pense que cette soif, c'était une soif de la communion avec son Père ou avec son Dieu retrouvé. Pendant 3 heures, il avait... La communion était interrompue, alors il a soif de cette communion, de retrouver
cette intimité parfaite avec son Dieu et son Père, avec son Dieu comme homme et avec son Père. Oh combien cette soif qu'il avait, cette soif qu'il avait de cette communion, combien elle était grande. Certes, mais l'homme, comme toujours, ne comprend pas ce que Christ dit. Il l'abreuve de vinaigre, mais je crois que l'homme n'a rien compris. Et c'est normal. L'homme ne peut rien comprendre à ce qui s'est passé entre l'homme, entre Dieu et Christ. Et l'implication pratique pour nous, est-ce que quand nous avons péché, que la communion est interrompue, est-ce que nous avons soif de la retrouver?
Il a été cité donc le psaume 69, et c'est bien cette écriture qui est accomplie, le verset 21e, mais il comporte deux parties et qui, toutes deux, ont eu leur accomplissement à la croix. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture et dans ma soif. Ils m'ont abreuvé de vinaigre. Et les évangiles nous disent bel et bien qu'au début, ils ont voulu lui donner à boire un breuvage mélangé de fiel. Et l'ayant goûté, ils n'en voulut pas boire. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture. Et alors, le verset que nous avons sous les yeux, dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Un même verset trouve son double accomplissement, ou plutôt un verset qui a cette double pensée trouve son accomplissement à la croix. La première partie du verset au début de la crucifixion et la deuxième partie du verset du psaume 69 à la fin de la crucifixion. Et cette soif du Seigneur, elle a bel et bien tous les aspects qu'on peut lui trouver. L'aspect physique, il est une réalité tragique. Le psaume 22 nous le dit. « Ma vigueur est desséchée comme un thé, et ma langue est attachée à mon palais. » La soif physique réelle était là. Mais en effet, cette soif spirituelle, peut-on dire, cette soif morale, et n'y a-t-il pas encore aujourd'hui, en extrapolant un peu cette pensée, qu'en résultat de l'œuvre de la croix, cette soif de voir des âmes venir à Jésus, de voir des pécheurs se tourner vers lui. Et par l'Esprit de Dieu, alors, il peut produire dans les cœurs et dans les consciences cette soif pour venir alors boire à l'entrée aux fontaines des eaux de la vie, invitation donnée encore jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse.
Notre passage souligne au verset 28 « Jésus sachant ». Et afin que l'Écriture fût accomplie. C'était pas seulement juste devant Dieu, mais il semble que dans les pensées mêmes du Seigneur, il y avait présence ces passages de l'Écriture qui devaient être accomplis. Et il trouve à ce moment-là, en lui-même, cette connaissance des Écritures et cette communion avec ce qui est la pensée de Dieu pour, là aussi, l'accomplir. Que le Seigneur nous aide dans notre si faible mesure à saisir l'Écriture pour être conduite par elle en toutes circonstances.
Une double conséquence. La première est en rapport avec les Juifs qui connaissaient la loi, afin qu'ils puissent faire la relation entre ce que le Seigneur Jésus avait fait et ce que la loi avait dit. Et nous avons cela, par exemple, dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il nous est donné des preuves de l'œuvre du Seigneur et de sa résurrection, deux fois il nous est dit « selon les Écritures ». Mais il y a une autre conséquence pour nous, et elle est fondamentale et capitale pour la vie chrétienne. Attachons-nous à trouver le Seigneur à toutes les pages de l'Écriture. Toutes choses rendent témoignage de lui. Sondez les Écritures car elles rendent témoignage de moi. Attachons-nous à faire une relation profonde entre ce que le Seigneur a fait et dit et ce qui était annoncé de lui. Il y a un immense profit spirituel pour cela. C'est bien le pain vivant qui est descendu du ciel dont nous avons besoin.
Oui, à la suite de ce que tu viens de dire, le Seigneur a désiré accomplir ce qui avait été dit de lui à ce moment-là. Pourtant, dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. C'était, si on ose le dire, bien secondaire par rapport à d'autres choses qu'il avait accomplies, par rapport aux 3 heures de ténèbres, par rapport à tout cela. mais il était venu pour accomplir, et dans les moindres détails, ce qui avait été dit de lui.